Ovior.
Fjord.
Ovior.
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 Ovior. Ovior.
Qu'est-ce que c'est ? Une série de podcasts proposée par Les Pages Vior. Dans cette série, nous vous parlerons du cycle de l'eau en nous appuyant sur un territoire bien particulier, celui du bassin versant du Vior. Le Vior est une rivière de 163 km qui circule en Aveyron, dans le Tarn et dans le Tarn-et-Garonne.
Pour ce deuxième épisode, nous sommes avec Erwan Cabon, chargé de mission à Les Pages Vior. Il nous parlera des conséquences de l'imperméabilisation des sols, des débits de la rivière et donc des étiages et des crues.
À quel moment commence la crue ? C'est dur à dire.
La crue de 81, ça a été terrible. On était descendu au bar du Vior à l'époque boire un verre et avec la patronne on rigolait parce qu'on voyait le marchand de meubles qui était en train de déblayer tous ses meubles et tout. Et alors nous on rigolait, on a dit quand lui il aura de l'eau là, elle m'a dit moi j'aurai de l'eau sur le bar. Et bien, quand elle est montée, je peux vous dire qu'il y a eu de l'eau sur le bar. Ça a été terrible, ouais. On a passé la nuit à déménager, tout le monde, ouais. Ouais. C'est normal, c'est la solidarité.
Le petit affluent est sacrément en eau. Il y a beaucoup d'eau, je ne m'attendais pas du tout. Il a bien plu et tout dégorge là, donc c'est pas mal. Mais là, il y a vraiment beaucoup d'eau. D'habitude, on arrive à passer à peu près au sec. C'est que ça coule bien, il y a du débit, donc là c'est bien, c'est bon signe. C'est bon signe pour les champs à côté, c'est bon signe pour les poissons dans la Noz, dans le Vior derrière. Moi je m'appelle Erwan Cabon, je suis chargé de mission quantité à Les Pages Vior. Mon travail c'est tout ce qui concerne les débits, les volumes d'eau, à partir du moment où la pluie tombe sur le bassin versant et se transforme en débit dans la rivière et s'écoule dans les différentes rivières du bassin. J'ai un regard forcément aussi sur les températures, l'évaporation, l'évapotranspiration, l'infiltration.
Et donc là, on va faire quoi ?
On est sur une de nos stations hydrométriques. Voilà, c'est une station hydrométrique que je n'ai pas visitée depuis 4 mois. Tout l'hiver est passé, donc on va pouvoir récolter les données qu'elle a observées. Elle prend une mesure toutes les 30 minutes du niveau de l'eau. Et donc là, j'ai amené mon ordinateur pour extraire la donnée du capteur qui est donc accolé au pont qui traverse la Noz. Et tout ça, c'est caché dans un petit tube.
Alors ça, quand on est visiteur, en fait, souvent, on en voit sur le bord des rivières, sur les ponts, souvent.
Sur les ponts, beaucoup, parce que c'est des endroits privilégiés pour mesurer le débit. On a une section qui ne va pas bouger. On a une topographie qui est fixe, puisqu'on ne veut pas que le pont bouge, donc la rivière ne va pas bouger. Nous, on fait un suivi quantitatif, plutôt de connaissances générales.
Bon, on va aller voir ce que va nous raconter la Noz.
Donc là, j'ai allumé mon petit ordi de terrain. J'ai déverrouillé la tête de lecture. On y met un petit capteur. Et normalement, je puis lui demander d'afficher les données. Voilà, c'est en train d'arriver là. Voilà. Donc là, je récupère les trois grandeurs caractéristiques qui sont mesurées. Donc le principal, c'est la hauteur d'eau. Il y a la température de l'eau, toujours intéressant. Et il y a le niveau de la batterie.
Nous sommes au mois de mai, dans un printemps pluvieux. Les niveaux sont hauts sur les 4 derniers mois. Aujourd'hui, il y a 23 cm d'eau et la température de l'eau est de 15 degrés. Cette nuit, elle était de 10 degrés. On voit aussi des pics de niveau qui correspondent aux multiples pluies que nous avons eues ce printemps. C'est ainsi que tout au long de l'année, suivant la pluviométrie, la rivière voit son débit varier. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on peut mesurer de manière fine car il existe de nombreux réseaux de surveillance.
On a les stations de l'État hydrométriques. On a les stations hydrométriques de l'EPAGE et de ses partenaires que je suis. On a particulièrement sur les ASEC un réseau des services de l'État, l'OFB, qui suit 6 points sur le bassin. C'est un suivi visuel mensuel des ASEC et du niveau de l'eau dans les rivières. Et nous, on s'est calqué sur la même chose pour densifier ces 6 points. On en a aujourd'hui 34.
Les crues dont nous allons parler dans cet épisode sont fréquentes et elles remplissent un certain nombre de fonctions écologiques. Les hommes savent depuis bien longtemps l'intérêt de cultiver les plaines alluviales. Elles sont par définition en zone inondable et recueillent à chaque crue des sédiments provenant de l'érosion des reliefs. La crue a aussi des effets bénéfiques dans le lit même de la rivière. Elle va déplacer les matériaux et les bancs de sable, et elle va même parfois créer de nouveaux méandres. Les plantes et les animaux vont ainsi pouvoir coloniser ces nouveaux territoires. Écoutons successivement Erwan Cabon, puis un habitant de la Guépy, et enfin Pierre-Jean Huchard de l'Épage Vior.
Il y a des périodes quand même plus ou moins propices. En tout cas, les grands cours d'eau sont plutôt susceptibles à avoir des crues pendant l'hiver, on va dire, de manière large. Moins pendant l'été, au contraire, c'est les petits ruisseaux qui, peut-être au cours d'un orage estival, va peut-être monter assez rapidement.
Après les crues de printemps, le fond, c'est comme s'il avait été lavé, il était propre. Vous savez, une grosse crue, ça vous nettoie bien le fond. Là, vous voyez, c'est toujours un peu comme ça. Il y a de l'eau qui est montée, je l'ai vu encore monter il n'y a pas longtemps dans le jardin, là-bas, mais ça redescend aussi sec.
Quand il y a des crues sur les cours d'eau, ça permet de trier les matériaux. En fait, les éléments fins, qui sont plus légers, vont tendance à monter près de la surface. Et donc, cette rugosité, ça va créer des ondes de remous dans les racines et dans les branches, ou dans les troncs. Et ça va créer donc des ondes de dépôt. Ça va permettre de stocker le sable sur les bordures et de garder les gros matériaux, les pierres, les éléments qui créent des interstices un peu plus gros, favorables au développement des insectes. Ça va permettre de les garder au fond du lit du cours d'eau.
La Nose, en termes de crue, on n'a pas beaucoup de connaissances, puisqu'elle n'est pas très habitée. Et c'est tout l'enjeu en fait, d'avoir une station hydrométrique sur un site très naturel, parce que c'est le capteur qui enregistre à notre place en fait. C'est lui qui va suivre et nous dire que tel jour, telle heure, telle minute, la crue elle était à 3,43 m sur le pont par exemple.
L'histoire des crues est indissociable des ponts. On connaît les plus anciennes crues parce que justement, elles ont détruit des ponts. Par exemple, 1725, le pont de Turiès est détruit. 1872, le tablier du pont du Moulin de Barre est emporté. 1909, c'est le vieux pont de Camboulas qui disparaît dans le torrent et le pont de la Capelle Vior qui est complètement détruit. Enfin, en 1917, de Montirat à la gare de Vior, il ne reste plus un seul pont après la crue.
Sachant que sur le Vior, sur l'ensemble du bassin du Vior, la plus grande que l'on connaisse, c'est la crue de mars 1930.
En 1930, l'eau est passée par-dessus le pont.
Derrière, vous avez la crue de 81.
Le jour du coup d'État en Pologne, de Valéza. L'eau, on l'avait sur la terrasse. C'est la plus grosse que j'ai connue. Il y avait donc, vous voyez, 6 mètres.
Ce qui est intéressant déjà, c'est de savoir chez soi ou autour de chez soi où sont arrivées les anciennes crues, les crues du passé. On arrive assez facilement à remonter sur un siècle à peu près. Malheureusement, les mémoires disparaissent au fur et à mesure.
Elle était avant là. Ah mais
elle est là.
Ah ouais. Ah non, 1906. 1930, je crois que c'est plus haut.
Oui, du 14 décembre 1906.
Ouais. Ouais, en général, c'était ça. C'était le mois de la pluie. Pluvieuse, venteuse, là, novembre-décembre. Donc quand même, c'est conséquent, là. Moi, je n'ai jamais vu comme ça.
La loi impose aux collectivités d'apposer des repères de crues après chaque crue. Alors, c'est souvent fait par l'intermédiaire des syndicats de rivières, comme l'Épage Vior, ou par une structure qui porte le programme d'action de prévention des inondations, le PAPI. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre après chaque crue, notamment les crues les plus importantes, pour que les gens gardent aussi la mémoire. Je suis Karine Clément, je suis agent de la direction départementale des territoires de l'Aveyron. Je travaille au sein du service énergie, risque, bâtiment et sécurité, et plus particulièrement au sein de l'unité prévention des risques. Donc j'ai en charge l'élaboration des plans de prévention des risques inondations. Quand on cartographie des zones inondées, c'est l'emprise de la crue centennale que nous cartographions. Donc une crue centennale, c'est pas une fois par siècle, c'est une chance sur 100 de se produire chaque année. c'est une grosse crue, une crue très significative. Par contre, on a des crues qui arrivent de façon fréquente sur l'ensemble des cours d'eau et notamment sur le Vior. Donc on a eu une crue 2021. Certains secteurs sont inondés. Ça peut être le cas sur la commune de Crespin, avec le pont de Sirou notamment, où certaines habitations sont inondées, notamment les caves. Mais avant, les gens avaient du bon sens. Quand ils construisaient en zone inondable, ils habitaient à l'étage. Et dans les caves, bon, il y avait le stockage de quelques denrées, mais il n'y avait pas de produits sensibles à l'inondation, où il n'y avait pas d'appartements en rez-de-chaussée. Voilà, il n'y avait pas tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans des habitations modernes.
Karine Clément est aussi maire de Nocelles et présidente du Pays Ségali Communauté.
On a en commune tous des plans communaux de sauvegarde. Ce sont des fiches réflexes pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'inondation. Quand on habite au bord d'un cours d'eau, il y a un risque, il faut apprendre à vivre avec, il faut travailler la culture du risque, c'est aussi le rôle de l'EPAGE, hein, de nous accompagner, nous les élus, dans la culture du risque, comment on transmet aux enfants cette culture, comment on apprend les gestes simples, hein, s'il y a une inondation, qu'est-ce que je fais.
C'est quoi les bons réflexes?
Écouter la radio, il y a plusieurs radios qui diffusent les messages d'alerte, donc pour notre secteur il y a Totem, il faudrait toujours avoir chez soi, pour les gens qui habitent en zone inondable, hein, un petit kit de survie, la lampe torche, parce que souvent... Ça arrive en pleine nuit, l'électricité se coupe. Donc la lampe torche, de l'eau, un petit kit de survie qui permette de, si jamais on est isolé, de pouvoir, et qu'on a un étage, une pièce refuge, on peut toujours vivre chez soi. Et après, c'est le bon réflexe, c'est notamment pour les parents, ne pas aller chercher les enfants à l'école, ils sont en sécurité. Parce qu'on le voit aujourd'hui, hein, les morts sur des inondations, ce sont des gens qui prennent des risques et qui traversent soit des passages à gué. On essaye de fermer un maximum, nous, les élus, quand la préfecture nous envoie des alertes et qu'il y a une vigilance crue, on essaye de fermer tous les passages à gué. Peut-être qu'il y a un passage à gué qui n'a malheureusement pas été fermé, ou les personnes contournent l'interdiction et vont traverser et se font emporter. Sur le Vior, ce qui est caractéristique, c'est que nous avons des barrages hydroélectriques. EDF, ils sont là pour turbiner et faire de l'électricité. Mais par contre, ils ont quand même un rôle. Quand ils voient que le barrage est relativement plein, que Météo France annonce un épisode de pluie, soit océanique, soit méditerranéenne, et qui peut impacter le secteur, ils vont essayer d'anticiper et de baisser un petit peu le niveau du barrage. Ce qui permettra de tamponner les petites crues. Il n'y a pas d'impact pour les usagers. Par contre, dès qu'on passe sur une crue de fréquence soit décennale, soit trentennale, ils ne tamponnent plus, tout ce qui rentre ressort. Et du coup, là, les habitants sont impactés. Et il y a une crue. Et les gens ont souvent oublié, parce qu'ils se disent, il y a le barrage, il nous protège, ont oublié qu'il pouvait y avoir des crues sur un cours d'eau. Voilà, sur le Vior notamment, c'est très caractéristique.
Les barrages permettent de produire de l'électricité, d'alimenter en eau potable un bassin de population et de répondre aux besoins touristiques. Leur gestion en est différente en été et en hiver. Et évidemment, ils ont un impact sur les débits.
Honnêtement, je n'ai jamais connu le Vior avec des débits naturels.
Pierre-Jean Hichard de l'EPAGE Vior.
Parce que les barrages qu'on retrouve sur l'amont artificialisent complètement les débits. On n'a plus de crues comme il devrait y avoir naturellement. Des fois, on a plus d'eau l'été que l'hiver. Alors ça, je n'ai pas de souvenir assez clair de mon enfance pour vous dire s'il y avait plus d'eau l'hiver avant que l'été. Mais aujourd'hui, c'est ça en fait. On a des régimes hydrauliques qui sont parfois inversés pour des soutiens d'étiage, hein, pour faire boire les gens aussi plus bas dans la vallée. Donc il y a quand même une grosse artificialisation du transport solide sur le bassin versant du Vior, lié au barrage.
Sur le Vior, le plus ancien barrage est celui de Turiès. Il a été mis en service en 1923. 30 ans plus tard, en 1951-1952, c'est la centrale de Pouget qui est mise en service avec trois retenues, Bage, Parloux et Pont-de-Salard. Les grands barrages ont des conséquences en aval sur la vie de la rivière. Ils empêchent les petites crues morphogènes, celles qui ne créent pas d'inondations, mais qui sont indispensables à la régénération du cours d'eau. Elles rechargent les sols et les nappes à proximité de la rivière. Ce manque d'eau dans les sols a évidemment des conséquences sur les débits d'étiage. L'étiage, c'est la période de l'année où le débit de l'eau est naturellement faible. Chez nous, c'est habituellement l'été.
L'étiage est la conséquence de la sécheresse.
Erwan Cabon.
Vous n'avez pas de pluie pendant longtemps, vous avez des fortes chaleurs, vous avez une sécheresse. Les sols se vident, les sources ralentissent et les cours d'eau donc diminuent en absence de pluie hein, principalement. Chaque fin de mois, on regarde, est-ce qu'il y a de l'eau ? Un écoulement qui paraît normal, suffisant pour la période. Est-ce qu'on a un écoulement faible ? C'est-à-dire qu'on commence à ressentir que le débit, par rapport à d'habitude, on commence vraiment à être dans une situation d'étiage. C'est très qualitatif. Est-ce qu'on a une absence d'écoulement ? C'est-à-dire que j'ai quand même de l'eau, je vois visuellement de l'eau sur ma rivière, au niveau de mon point. Mais l'eau, elle ne bouge pas vraiment. Et puis surtout, est-ce qu'il y a un ASEC ? C'est-à-dire, est-ce que plus de 50% de ma rivière, il n'y a pas d'eau ? Et donc là, on est vraiment dans une situation d'étiage très sévère. Et donc en fait, on coche l'une de ces quatre cases. Ça fait 2 ans maintenant qu'on fait un peu ces pratiques-là. On s'aperçoit que les cours d'eau sur le bassin du Vior, les plus susceptibles à s'assécher, en fait, hein, c'est le Ségala Tarné. Au sud-ouest du bassin versant, alors que typiquement sur le Lévezou, il y a peu de passages en ASEC, le Lévezou étant une ancienne terre d'eau. Hein. Et ça, ben, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui explique. On va essayer de comprendre en regardant la distribution spatiale des pluies, on va essayer de le comprendre en regardant la géologie. Aujourd'hui, on ne le sait pas, on n'a pas beaucoup de retours. On n'a que 1 an, 2 ans. Ce n'est pas suffisant pour vraiment ancrer une certitude.
Pour comprendre le fonctionnement de nos rivières, et notamment de l'étiage, tous les organismes s'échangent leurs données et on fait de plus en plus appel à nous toutes et à nous tous pour contribuer à la connaissance. Erwan Cabon.
On a un programme de sciences participatives dont l'objectif est de faire un suivi particulièrement des ASEC, mais de manière plus générale tout au long de l'année, sur les niveaux de l'eau. Sur l'ensemble du bassin du Vior, on a choisi 20 sites, sur lesquels il y a une échelle limimétrique. On aura un pupitre qui vous permettra de poser l'appareil photo bien orienté vers le cours d'eau et l'échelle limimétrique. Et le souhait ou l'espoir, c'est qu'on puisse avoir une meilleure connaissance, au bout de quelques années d'observation, de l'évolution du cours d'eau au cours de l'année.
On est déjà capable de voir une évolution sur les 50 dernières années ?
On commence déjà à voir effectivement des tendances de diminution des débits de certains cours d'eau, pas partout. C'est un travail qui est en cours, oui, sur le changement climatique.
N'hésitez pas à contribuer vous aussi en remplissant le questionnaire mis à disposition sur le site de l'EPAGE Vior ou en contactant directement Erwan Cabon à Erwan, E-R-W-A-N, Cabon, cabon@epage-vior.com. Erwan Cabon a aussi des missions d'accompagnement des acteurs locaux, agriculteurs et collectivités territoriales en particulier. Ces missions s'accompagnent d'un important volet pédagogique afin que chacun d'entre nous comprenne le cycle de l'eau. L'objectif central à toutes les actions de l'EPAGE Vior est de stocker de l'eau dans nos sols.
L'imperméabilisation du sol, elle a 2 incidences majeures, on va dire, quand on regarde les eaux. Elle va avoir une aggravation des ruissellements sur un sol naturel dans votre jardin. Il y a une part qui s'infiltre et une part qui ruisselle. Sur des pluies classiques, c'est moitié-moitié. Sur les orages plus intenses, où il y a vraiment des trombes d'eau qui tombent, bon, ben là, ça va être 2/3 qui ruissellent, 1/3 peut-être qui va s'infiltrer, la première pluie et la dernière. Sur les petits aménagements de nos villages et villes, on va le voir, cette incidence, juste à l'aval, sur les petits cours d'eau qui récupèrent tous ces réseaux pluviaux. Et là, les fossés, les petits ravins vont beaucoup plus vite peut-être se mettre en charge.
Erwan Cabon vient de nous parler des ruissellements qui aggravent en particulier les inondations. Il poursuit avec une autre conséquence de l'imperméabilisation des sols qui, elle, aggrave les sécheresses.
L'autre aspect de l'imperméabilisation des sols, c'est une incidence sur la recharge des sols, de l'éponge sol, du réservoir d'eau sol, qui là, du coup, en imperméabilisant, on ne permet plus du tout à ces petites quantités d'eau, des petites pluies courantes qui rentrent dans le sol et qui s'y stockent et qui sont gardées au frais et qui s'écoulent lentement pour aller jusqu'aux sources, puis in fine dans les rivières. On stoppe l'infiltration, on assèche quelque part ce réservoir, mais on ne le voit pas, on ne voit pas qu'il s'assèche. Et une partie du travail que je mène, c'est d'accompagner les collectivités qui s'inscrivent dans ces démarches de désimperméabilisation pour tenter de limiter les surfaces imperméabilisées, pour faciliter le retour de l'eau dans le sol, mais aussi, et du coup, pour redonner de la vie au sol. La désimperméabilisation, elle s'accompagne, comme je le disais, de plein de bonus. Fraîcheur, végétation, cadre de vie, biodiversité du coup, puisqu'il y a la végétation, puisque j'ai un sol qui est plus naturel aussi. On essaie de compléter tous ces aspects-là. Plutôt que de faire du tout tuyau, plutôt que de tout canaliser, bah, l'idée c'est d'essayer de diffuser au maximum dans la végétation de ces zones qu'on vient de désimperméabiliser. Pourquoi pas en tête de bassin versant, ce qui permettrait de ramener de l'eau dans ces sols naturels qui sont un peu plus en aval. Il y a toute une logique qu'on va mettre dans le bloc de la gestion intégrée des eaux pluviales. Et on est vraiment dans une logique de remettre en fonctionnement un cycle de l'eau hyper local dans les villes, qui vient en complément du grand cycle de l'eau au niveau du bassin versant, du continent, de la planète, quoi.
À la prochaine pluie, que vous soyez en ville ou à la campagne, regardez l'eau qui arrive au sol. Que fait-elle? Elle dévale, elle s'infiltre. Mais où va-t-elle? Si vous êtes sur le bassin versant du Viaur, toutes les gouttes d'eau convergent vers la rivière Viaur. C'était Au Viaur, épisode 2, des débits, des crues et des étiages. Une série proposée par Les Pages Viaur. Production, partage de voix, réalisation Sophie Pillot, Agnès Maton, musique Basile Mandigral. Retrouvez toute la série sur le site de Les Pages Viaur et les plateformes d'écoute de podcast. Si vous venez par ici, prévoyez une randonnée sur les bords du Viaur. Vous y retrouverez le long du chemin des panneaux explicatifs et un lien vers l'écoute de la série de podcasts.